France Culture.
Bienvenue dans cette émission Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Au cœur de nos échanges aujourd'hui, la laïcité. D'abord parce que l'année 2025 marque les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, mais aussi et surtout parce que cette notion de laïcité telle que nous la vivons en France ne va pas toujours ou toujours pas de soi. Le retour public de la religion suscite bien des réflexions légitimes et des réponses qui impliquent la laïcité. Pour clarifier ce qu'est la laïcité et porter un regard sur certaines polarisations mortifères qui gangrènent notre société, nous accueillons aujourd'hui Patrick Veil. Bonjour Patrick Veil.
Bonjour.
Historien spécialiste des questions d'immigration, de citoyenneté et de laïcité, vous êtes depuis 1994 directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains de l'Université de Paris 1. Et professeur à l'Université de Chicago. Vous avez été membre en 2003 de la commission de réflexion sur l'application du principe de la laïcité dans la République. Sylvain Zegny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Conseil national de la Fédération française du droit humain et je vous laisse la parole pour échanger avec Patrick Veil.
Bonjour Monsieur Veil. Nous allons commencer par essayer de comprendre les enjeux actuels de la laïcité. Et pour cela, il nous a semblé qu'il fallait revenir à l'histoire, et notamment aux deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905, souvent invoqués et souvent mal compris. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui, alors, ce sont deux articles, ce sont des articles de principe. Alors, je pense que le premier, il faut le lire, il est assez court. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, donc dans la loi qui va suivre, dans l'intérêt de l'ordre public. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la liberté de conscience, il n'y a pas de restriction. Elle est absolue. Ce que vous avez dans le fort intérieur, vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire le libre exercice des cultes ? Les auditrices et les auditeurs peuvent penser que ça veut dire le droit d'aller sur un lieu de culte, dans une église, dans un temple, dans une synagogue, une mosquée. Mais ça va bien au-delà. L'exercice du culte, c'est la jurisprudence d'avant 1905 qui le dit, c'est toute manifestation extérieure de la foi. Si elle a sorti de cette émission, ou si les auditeurs, après nous avoir entendus, sortent dans la rue avec un signe religieux, ils exercent leur culte. Alors comment le sait-on ? On le sait parce que Aristide Briand cite la jurisprudence quand il répond à la question de que veut dire cet exercice du culte. Et qu'est-ce que dit la jurisprudence ? Ben c'était du code pénal qui disait que si vous faisiez pression sur quelqu'un pour le ou la contraindre à exercer son culte, c'est-à-dire par exemple à porter des signes religieux ou à ne pas en porter, vous étiez passible d'amende ou de prison. Et d'ailleurs, cet article du code pénal se retrouve aujourd'hui dans l'article 31. Donc l'article 1, il se lit en relation avec l'article 31, c'est le droit de croire ou de pas croire, la laïcité, sans pression. Et l'article 2, c'est l'article qui pose la séparation, c'est-à-dire le régime de laïcité au sens strict, et qui met un terme au soutien qui existait avant 1905 à ce qu'on appelait les cultes reconnus.
Alors aujourd'hui, certains ont le sentiment que la laïcité est en péril et qu'il faudrait la protéger en constitutionnalisant, si j'ose dire, les deux premiers articles de la loi de 1905. Qu'en pensez-vous ?
Je n'y suis pas opposé, mais moi je pense que le péril que court la laïcité, c'est l'ignorance de ceux qui en parlent. Et la confusion dans laquelle ils en parlent, qui fait que, par exemple, moi qui fais des conférences toutes les semaines, parfois on me dit « j'ai fait une formation et je suis ressorti plus confus que j'y suis rentré ». Bon, c'est quand même un problème. Donc, il y a un vrai problème, c'est la méconnaissance du droit, parce que la laïcité, c'est du droit. Et du droit, et comme tout droit, il y a de la jurisprudence. Et après, vous pouvez faire des interprétations philosophiques, vous pouvez apprendre le contexte historique, faire de l'anthropologie, mais c'est d'abord du droit. Et c'est un droit magnifiquement organisé, puisqu'il organise le respect de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, qu'ils soient croyants ou pas, et quelles que soient leurs croyances, s'ils sont croyants, et qui aussi détache la République du lien historique qu'elle avait avec l'Église. L'État n'est pas anti-religieux, il est a-religieux. Et une fois qu'on a dit ça, après il y a d'autres choses à dire, mais je ne vois personne, quand je fais des interventions, qui dit « Oh, c'est un magnifique régime », parce que tout le monde y a sa place.
Alors justement, tout le monde, mais peut-être on peut avoir quelques hésitations, puisque aujourd'hui, les personnes de confession musulmane se sentent discriminées par la laïcité. Et d'autre part, certains hommes politiques utilisent la laïcité comme arme contre la religion musulmane. Et là aussi, je pense qu'il y a un vrai, vrai problème quant à l'enseignement de l'histoire de cette notion de laïcité, notamment aux populations qui sont venues travailler en France de culture musulmane. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que vous avez raison, mais je vais essayer de clarifier un certain nombre de choses. D'abord, contrairement à ce que certains grands dirigeants de notre pays ont pu dire, la loi de 1905 s'appliquait à l'islam, puisque l'Algérie était la France, et qu'après débat et vote au Sénat, le Parlement décide d'appliquer la laïcité à l'Algérie. Simplement, il prévoit une période de transition à la diligence du gouvernement, et les gouvernements successifs n'ont pas appliqué la volonté du législateur, ils ont en permanence prolongé la période transitoire, ce qui fait que le régime de laïcité ne s'est jamais appliqué à l'Algérie. Mais déjà, il faut bien que nos compatriotes de culture musulmane le sachent, et que tous nos compatriotes, la loi de 1905 a une dimension universelle, elle n'est pas faite que par rapport au pape, à l'Église catholique, elle a une dimension universelle. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre discrimination et inscription de la laïcité dans notre histoire. Nous sommes tous les pays aujourd'hui qui reconnaissent la liberté de conscience et le libre exercice du culte, ont souvent été construits sur des traditions majoritaires, religieuses, si vous voulez. Nous sommes un pays anciennement catholique et affirmé comme tel. Il y a des églises dans tous les villages. Bon, mais évidemment, et en plus, ces églises sont leur entretien est financé par les contribuables. Donc, on s'arrête de travailler le dimanche, on a des jours fériés, plus de la moitié sont catholiques. Bon, ça, c'est pas de la discrimination. C'est le fait que on a une histoire et qu'on peut pas mettre de l'égalité dans tous les domaines. Mais, notamment suite aux travaux de la commission Stasi dont vous avez parlé, par exemple, les musulmans ont aujourd'hui des aumôneries dans l'armée, dans les prisons, dans les hôpitaux. Vous avez de l'égalité là où c'est possible. Et quand il y a des interventions, comme il y en a eu avec la loi de 2004 pour dire on ne peut pas porter certains signes, les signes ostensibles, dans les écoles publiques, ça n'est pas discriminatoire, c'est parce que la loi 1905 interdit les pressions. Et qu'il fallait interdire les pressions dans les cours de récréation, et qu'on n'a pas trouvé d'autre solution que d'interdire les causes de la pression.
Effectivement, dans votre livre de la laïcité, Patrick Veil, qui vient d'être réédité d'ailleurs début 2025, vous dites que ce principe d'interdire les signes ostentatoires à l'école était vraiment fait pour protéger aussi les jeunes filles qui recevaient des pressions.
C'était fait pour ça, parce qu'il y avait des groupes de garçons qui ciblaient des jeunes filles qui leur apparaissaient musulmanes, qui ne portaient pas le voile, alors qu'elles avaient le droit de le porter. Alors, vous avez le droit de le porter, vous ne le portez pas, vous êtes des mauvaises musulmanes, on va s'occuper de vous à la récré. C'était des pressions. Et comment faire pour... Vous n'allez pas dire, allez devant le tribunal, à 13 ans, on ne va pas devant le tribunal. Donc, la commission Stasi, suivie par le législateur, a proposé l'interdiction des signes dans les écoles publiques, en sachant, d'abord, ce n'est pas l'interdiction de tout signe, les signes discrets sont autorisés. Et d'autre part, vous avez, comme nous le savons tous, nous avons un système d'écoles privées sous contrat, dans lesquelles les jeunes filles musulmanes sont admises, même si ce n'est pas des écoles musulmanes, c'est l'obligation du contrat. Et c'est ce qui se passe, certains de ces établissements acceptent, ils ont le droit de le faire du point de vue de la loi, les signes religieux, et elles peuvent continuer leur scolarité dans ce cadre de ces établissements.
Vous intervenez d'ailleurs vous-même, Patrick Veil, je crois, assez régulièrement ou dans des établissements scolaires.
Oui.
Et vous considérez que c'est la citoyenneté qui permet l'exercice de la laïcité et non l'inverse. Donc l'intérêt de ces interventions, c'est avant tout de mettre en avant une forme de citoyenneté.
Ben, si vous voulez, j'ai remarqué la chose suivante. Comme vous l'avez signalé, il y a... Les enfants de culture musulmane sont arrivés dans les écoles. On a commencé par leur faire des cours de culture et de langue d'origine. On les a mis à part des enfants. Et puis quand ils ont été remis avec les autres enfants, on a dit on va enseigner le fait religieux. Ben oui, mais nous on est une génération, on ne nous a pas enseigné le fait religieux, on est quand même des bons citoyens. L'école, et ça c'est comme ça que voyaient les républicains, l'école publique enseigne l'histoire politique de la République. Bon, et l'enseignement religieux, c'est du domaine éventuel des parents. Voilà. Donc, c'est l'histoire politique, c'est l'inscription de tous ces enfants des écoles dans l'histoire politique de la République qui font que si jamais ils ont été élevés dans la religion et qu'ils se sentent doutés et qu'ils ont envie de s'éloigner, ils se sentiront dans une autre maison qui est celle de la République. Si on ne leur enseigne pas l'histoire politique dans laquelle, à laquelle ils appartiennent par notre histoire politique, on les empêche, non pas en théorie, mais en pratique, le libre choix qui est garanti par l'article 1 de la loi de 1905.
Et du coup, cela permet une forme d'universalisme, c'est-à-dire qu'on gomme les différences et les spécificités, ou tout au moins on demande à ce qu'elles soient un peu mises de côté, pour qu'il y ait un seul et unique statut, c'est celui de l'élève de la République.
Mais si vous voulez, l'histoire de la République, elle est commune. C'est pas parce que l'histoire de l'Empire, c'est l'histoire commune, enfin c'est pas la République, enfin, ça l'a été aussi, mais l'histoire de l'Empire français, c'est l'histoire de France. L'histoire de la politique d'immigration, c'est l'histoire, voilà. L'histoire de l'esclavage et de son abolition, ça doit être enseigné. On ne doit pas enseigner que ça, mais avant n'enseignait pas. Et maintenant, il faut l'enseigner, et il faut que tout le monde comprenne ce qui fait qu'on se retrouve dans les salles de classe avec cette diversité, mais dans une histoire commune.
Alors, justement, on enseigne aujourd'hui le fait religieux. Moi, je trouve un peu que c'est un concept flou.
Voilà.
Et par définition transversal. Il est aussi bien enseigné dans la littérature, qu'en histoire, qu'en philosophie. Et tout ça fait un espèce de gloubi-boulga, et je ne vois pas à quoi vraiment on peut arriver autour de cette notion de fait religieux.
Écoutez, moi je crois que, en faisant l'histoire politique, on parle de fait religieux. Hein, parce que, après tout, d'abord on avait des rois très catholiques, quand on fait l'histoire de la sécularisation de l'État, quand on fait l'histoire des guerres de religion, et je vais vous dire, il y a peut-être des priorités. Moi, il m'arrive très souvent de faire des... L'intervention, par exemple, dans des classes de terminale, ben, les enfants ne savent pas que, dans la loi française, depuis 1792, le mariage civil a lieu avant le mariage religieux. Ça n'a pas été enseigné. Alors, je pense qu'il y a des priorités. Je pense qu'au moment où on fait la Révolution française, ça serait pas mal, justement, d'enseigner le détachement, le premier détachement de l'État par rapport à la religion. Ben, on fait de l'histoire religieuse, mais ce n'est pas la même façon. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait des choix stratégiques qui soient faits au niveau du ministère de l'Éducation nationale et qui n'ont pas été faits jusqu'à présent.
Pensez-vous, Patrick Veil, qu'il soit possible de faire coexister aujourd'hui deux conceptions qui semblent opposées de la laïcité ? L'une qui serait stricte et rigide, souvent associée aux enjeux sécuritaires ou identitaires dont on parlait en début d'émission, et l'autre plus souple et tolérante, ouverte à une diversité d'expressions religieuses, notamment dans l'espace public.
Alors, deux conceptions de la laïcité, c'est l'échec de la laïcité. La laïcité a été faite pour unir tous les Français, puisqu'elle est censée rassembler sous un régime légal semblable le croyant, le non-croyant, l'agnostique, quelle que soit pour le croyant la foi qui l'anime. Bon. Ceux qui ne peuvent pas entrer dans la laïcité, c'est ceux qui sont racistes, c'est-à-dire qui pensent qu'on ne peut pas, que certaines couleurs de peau ou certaines religions empêchent de rentrer dans la laïcité, ou ceux qui veulent imposer à la République la vision religieuse de leur groupe. Voilà. Pour le reste, chacun a sa place. Et je vais vous dire, ce débat, c'est un faux débat, et c'est un peu mon livre qui l'a montré. Parce que Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'islamisme radical? Eh bien, il y a les dispositions pénales de la loi, qui avaient été oubliées, qui sont d'ailleurs toujours oubliées, qui sont pas encore mises en œuvre par le gouvernement, qui permettent de punir toutes les pressions et d'envoyer en prison en cas de pression. Eh bien, par exemple, l'imam de la mosquée de Pantin, qui avait mis sur le Facebook de sa mosquée la vidéo qui a entraîné l'assassinat de Paty, il n'a jamais été poursuivi parce qu'on ne connaissait pas l'article 35 de la loi de 1905. Et donc, voilà, ça veut dire que l'application de ces dispositions répond à l'exigence des premiers qui ne veulent pas qu'on fasse de discrimination contre les musulmans. Ce sont des dispositions qui se sont appliquées de 1906 à 1914, c'est ce que mon livre montre, à des catholiques radicalisés, à des ecclésiastiques catholiques radicalisés. Donc ils peuvent très bien s'appliquer de façon tout à fait équitable à des ecclésiastiques musulmans radicalisés.
Mmh. C'est ce que vous préconisez dans la conclusion de votre livre, en faisant référence justement à cette police des cultes qui avait été mise en place et qui a évité une forme de guerre civile telle qu'elle était envisagée.
Voilà. C'est ce qu'on appelle cette police des cultes. On croit que c'est pas la police, c'est en fait la justice. En fait, c'est l'appel à la justice quand il y a des questions d'atteinte à la liberté de conscience ou au libre exercice du culte ou d'atteinte à la séparation. Vous voyez, l'un des grands penseurs qui aidait, un grand juriste qui aidait Briand a dit quand vous déclarez le droit de propriété, si vous ne prévoyez pas une pénalité si quelqu'un occupe votre appartement, votre droit de propriété est bidon. C'est pareil pour la liberté de conscience et la séparation. Il faut prévoir des pénalités si on les viole. Ces pénalités ne sont jamais mises en œuvre par le gouvernement aujourd'hui.
Merci Patrick Veil. Je rappelle le titre de votre livre, De la laïcité en France. Une lecture instructive pour nos auditeurs qui souhaitent développer les thèmes d'aujourd'hui. Je termine, puisque nous arrivons au terme de cette émission, pour annoncer la sortie prochaine du numéro 3 de notre revue Chemin de Traverse, qui aura un dossier consacré aux mythes, contes et légendes. Il ne nous reste plus qu'à remercier Dali Yaha à la technique, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Claire Poinsignon à la préparation. Et à vous souhaiter surtout un très bon dimanche à toutes et à tous.